Et donc, je vais maintenant présenter directement nos deux intervenantes ce soir. Donc, à ma gauche, il y a Elisabeth Chemla, qui est journaliste, née en 1948. Elle est fondatrice du journal en ligne Proche-Orient Info. Elle a été reporter à l'Express, à F Magazine, reporter puis rédactrice en chef au Nouvel Observateur, directrice adjointe de la rédaction de l'Express, etc., etc. Elle est responsable et spécialiste des sujets internationaux, en particulier européens et moyen-orientaux. Elle a publié de nombreux articles dans les revues. Elle est l'auteur de plusieurs ouvrages. Vous pouvez retrouver le détail de ces ouvrages sur les sites, mais sur notre site, mais je les indique. Édith Cresson, La femme piégée chez Flammarion en 1993. Mon journal d'Algérie, novembre 99 à janvier 2000 chez Flammarion en 1997. Ton rêve et mon cauchemar, les 6 mois qui ont tué la paix, Flammarion 2001. Et enfin, tout récemment, en collaboration avec Pascal Boniface, Halte au feu, édition Flammarion 2006. Pascal Boniface, lui, est né en 1956. Il est spécialiste de géopolitique. Il est directeur de l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques, IRIS. C'est un spécialiste d'études politiques. Je n'énumère pas tous ses diplômes ni le détail de sa carrière. Il est professeur à l'Institut d'études politiques de Paris et de Lille. Il a eu des fonctions aussi de conseiller technique dans des cabinets ministériels. Il est spécialiste de relations internationales, des questions nucléaires et de désarmement, de rapports de force entre les puissances. Alors, j'indique quelques-unes de ses publications, pas toutes, hein, vers la 4e guerre mondiale, c'était Armand Collin 2005. Les relations internationales depuis 1945, chez Dalloz en 2005, Football et mondialisation, Armand Collin, Paris 2006, l'année stratégique chez Dalloz en 2006, et enfin, comme tout à l'heure, avec Elisabeth Chemla, mieux vaut le dire deux fois, Halte au feu, aux éditions Flammarion, Paris 2006. Alors nous allons maintenant, comme nous faisons d'habitude, pour la troisième fois, nous allons demander à quelqu'un de tirer au sort le premier intervenant. Et plutôt, c'est de savoir où est l'urne. Voilà, l'urne est par là. Une personne innocente, présumée innocente.
Donc, c'est Pascal Boniface.
Et donc, c'est Pascal Boniface qui passe le premier dans l'échange. Merci.
Bien, mesdames, messieurs, bonsoir. Je vais essayer de réfléchir à voix haute devant vous sur la stratégie de l'Iran et évidemment surtout les problèmes que cela pose à la communauté internationale, si ce mot a d'ailleurs un sens, on pourra en parler, et puis surtout aux pays occidentaux. Première chose que l'on peut dire, c'est que l'Iran fait de nouveau peur et que la conjonction entre un régime islamique dont le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas bonne presse en Europe occidentale et dans le monde occidental, et un programme nucléaire jugé proliférant, sont deux facteurs dont chacun d'entre eux pourrait séparément susciter la peur, mais dont la conjonction des deux, bien sûr, vient augmenter encore les inquiétudes à ce propos. Si on y ajoute que l'Iran se situe dans une zone qui est certainement stratégiquement la plus sensible, celle où pourrait passer l'épicentre d'un éventuel choc des civilisations, là où il y a une fracture entre le monde occidental et le monde musulman, eh bien on voit que cette fracture possible entre le monde occidental et le monde musulman est certainement la question stratégique la plus sensible, eh bien on voit que ce n'est pas tout à fait par hasard que l'Iran est au devant de l'actualité depuis quelque temps et que même l'essai nucléaire nord-coréen, qui est venu bien sûr poser un certain nombre d'inquiétudes, ne doit être vu, à mon sens, que dans cette perspective-là. L'essai nucléaire nord-coréen est inquiétant en tant que tel, puisque la Corée se situe, elle aussi, dans une zone hautement sismique d'un point de vue stratégique, mais c'est surtout la conjonction des deux qui fait peur. Le programme nucléaire iranien ne date pas du régime islamique. Ce n'est pas ni Ahmadinejad, ni même son prédécesseur qui a lancé ce programme nucléaire pour l'Iran, c'est le Shah d'Iran, qui avait lancé dans les années 70 un grand programme nucléaire, bien sûr présenté comme ayant des buts civils. Les programmes nucléaires sont toujours présentés comme ayant des fins civiles. L'inquiétude des pays extérieurs est toujours qu'ils soient instrumentalisés à des fins militaires et que l'on détourne l'usage civil de l'énergie nucléaire à des fins atomiques. L'ironie de l'histoire, c'est que c'est Khomeini qui avait interrompu ce programme nucléaire iranien lorsqu'il a pris le pouvoir en 79, et que, à la fois pour faire rupture avec le pouvoir précédent, qu'il y avait d'autres besoins, Khomeini a tout d'abord interrompu ce programme. Et puis, au sortir de la guerre contre l'Irak, dans les années 90, le régime de la République islamique a repris, parce qu'il en avait de nouveau les moyens, et parce qu'il en avait de nouveau surtout la volonté, a repris ce programme. Ce programme, donc, suscite les inquiétudes depuis sa reprise avec une coopération soviétique puis russe dans les années 90. Mais, évidemment, les choses ont pris une tournure nouvelle lorsque, après son élection, le nouveau président Ahmadinejad, qui a été élu à la surprise générale à la tête de l'Iran l'an dernier, eh bien, a fait des déclarations disant qu'il voulait rayer Israël de la carte, et des déclarations également consistant à nier l'Holocauste. Alors, la négation de l'Holocauste est une chose qui n'a rien à voir, bien sûr, avec le programme nucléaire, mais qui a tout à voir avec l'opposition à Israël. Par contre, lorsque vous faites la conjonction d'une phrase consistant à rayer un pays de la carte et que, parallèlement, vous avez un programme nucléaire dont on s'inquiète sur le fait qu'il puisse être militaire, eh bien, effectivement, on pense tout de suite, surtout vu la taille du territoire israélien, que la conjonction programme nucléaire censé être militaire et déclaration demandant à ce qu'un pays soit rayé de la carte, eh bien, bien sûr, l'arme nucléaire pourrait être le moyen de cette destruction. L'arme nucléaire serait l'arme du crime par rapport aux intentions coupables d'Ahmadinejad. Il y a donc, avec ce programme nucléaire iranien, un risque d'embrasement de la région qui est tout à fait déstabilisé, un risque qui d'ailleurs n'inquiète pas qu'Israël, puisque dans la région, dans le golfe arabo-persique, il faut rappeler que les pays voisins de l'Iran, qui sont avant tout des pays arabes, sont autant inquiets qu'Israël de la montée en puissance de l'Iran, et que le programme nucléaire iranien, que la montée en puissance stratégique de l'Iran, sur laquelle je reviendrai par la suite, inquiète tout autant des pays comme l'Arabie Saoudite, le Qatar, le Koweït, Bahreïn, bref, les autres États arabes du Golfe, avec bien sûr une inquiétude plus grande en Israël, même si paradoxalement Israël a beaucoup plus les moyens de se défendre que les autres pays arabes. Les pays arabes n'ont pas de programme nucléaire, Israël a un programme nucléaire que l'on évalue à peu près à 200 armes nucléaires, donc c'est une vraie puissance de dissuasion. Et ce que l'on peut dire, c'est que ces déclarations d'Ahmadinejad sont, d'un point de vue stratégique, des déclarations agressives, mais que Ahmadinejad n'a pas les moyens d'attaquer Israël. Israël est plus puissant militairement que l'Iran, non seulement immédiatement, parce qu'Israël a un vrai arsenal de dissuasion, que l'Iran n'en est pas encore doté, sans parler bien sûr du rapport de force conventionnel. Alors pourquoi ces déclarations s'il n'en a pas les moyens? Je crois que ça vaut le coup bien sûr d'approfondir un peu ces déclarations, mais il faut donc bien voir que si l'on doit condamner ces déclarations, venant par ailleurs de la part d'un pays membre de l'ONU déclarant que l'on veut rayer de la carte un membre de l'ONU, ce qui est une première. On peut critiquer un gouvernement, on peut critiquer la politique étrangère d'un État, demander, on peut même parfois appeler au renversement d'un gouvernement, d'un État avec lequel on est en difficulté, mais à ma connaissance, le fait d'appeler à ce qu'un pays soit rayé de la carte au niveau du chef d'État, pas au niveau d'un propagandiste, pas au niveau d'un journaliste ou d'un parlementaire lambda, mais appeler à ce qu'un pays soit rayé de la carte au niveau du chef de l'État est une première dans l'histoire des relations internationales récentes post-ONU, et donc il convient de le remarquer. Mais une fois encore, quel que soit le caractère à la fois inadmissible et dangereux de ces déclarations, les moyens de les réaliser sont nuls parce que tout simplement la dissuasion existe. Et quand bien même l'Iran aurait des armes nucléaires, ce qui n'est pas encore le cas, eh bien la capacité de réaction israélienne est telle qu'elle interdit à l'Iran toute action militaire, conventionnelle d'ailleurs ou nucléaire, à l'égard d'Israël. L'autre problème, c'est bien sûr le risque de prolifération. Il y a donc la région, mais on se dit que l'Iran est signataire du traité de non-prolifération des armes nucléaires, signé en 68, entré en vigueur en 70, renouvelé de façon illimitée en 95. Ce traité distinguait les États en deux grandes catégories, ceux qui sont dotés d'une arme nucléaire et ceux qui n'en sont pas. La ligne de division entre les premiers et les seconds passe par une date, qui est le 1er janvier 1967. Les pays qui ont procédé à un essai nucléaire avant le 1er janvier 1967 sont reconnus officiellement comme étant des États nucléaires. Il s'agit donc des États-Unis, de la Russie qui a succédé à l'Union soviétique, de la Grande-Bretagne, de la France et de la Chine, et les autres sont considérés comme n'étant pas dotés d'armes nucléaires, ayant interdiction de le faire. Il y a trois États que l'on considère comme étant dotés de capacités nucléaires, mais qui ne sont pas partis à ce TNP. Il s'agit d'Israël, de l'Inde et du Pakistan. Donc le traité ne s'applique pas à eux, puisqu'ils ne l'ont pas signé. Et lorsque l'on dit parfois qu'il y a un deux poids deux mesures et que pourquoi refuser à l'Iran d'avoir des armes nucléaires alors qu'Israël en a, il y a une réponse juridique toute simple à apporter à cette question. L'Iran a signé le traité de non-prolifération des armes nucléaires, Israël ne l'a pas signé. Donc les dispositions du TNP s'appliquent à l'Iran, elles ne s'appliquent pas à Israël. Mais il y a également dans le TNP une clause dite de retrait prévue à l'article 10 du traité qui prévoit qu'un pays dans l'exercice de sa souveraineté peut, si des événements extraordinaires ayant une relation avec l'objet du TNP sont survenus et mettant en cause la sécurité, il peut dénoncer le traité dans un délai de 3 mois. Et donc l'Iran, même s'il est parti au TNP aujourd'hui, pourrait très bien dire, en se basant sur la situation en Irak par exemple, ou en se basant sur une démonstration militaire américaine, pourrait très bien dire, eh bien, la situation stratégique a changé, je me retire du traité. Cette clause jusqu'ici n'avait jamais été utilisée. Elle a été utilisée par la Corée du Nord en 2003, ce qui est une grande première, et donc on voit bien ce qui est dans l'essai nucléaire nord-coréen survenu il y a exactement une semaine. Ce qui est inquiétant, c'est pas l'essai en tant que tel, parce qu'on savait déjà que la Corée avait des armes nucléaires. C'est le fait qu'elle a mis en œuvre un essai après s'être retirée du traité, et donc en utilisant pour la première fois une disposition du traité qui n'avait jamais été mise en place, mais qui pourrait être consistait à ouvrir la boîte de Pandore, parce qu'à partir de là, d'autres pays pourraient revendiquer de se retirer du traité et donc se doter de l'arme nucléaire. Aujourd'hui, la discussion entre la communauté internationale et l'Iran porte sur l'enrichissement de l'uranium. L'enrichissement de l'uranium peut servir à plusieurs choses. Cela peut servir, eh bien, à se doter de matériaux combustibles pour faire fonctionner des centrales nucléaires. Pour cela, il faut de l'uranium enrichi à 3%. Ou il peut servir à se doter de matières fissiles pour fabriquer une arme nucléaire. Dans ce cas-là, on prend de l'uranium enrichi à 93%. Mais si vous disposez réellement de la capacité d'enrichissement, vous pouvez faire l'un et l'autre. Et donc la crainte, ce n'est pas que l'Iran ait aujourd'hui l'arme nucléaire, il ne l'a pas. Ce n'est pas que c'est que l'Iran se dote d'une capacité d'enrichissement qui pourra lui permettre de se fabriquer des matières fissiles utilisables militairement, et puis lorsqu'il les a, se retire du TNP et devienne un État nucléaire dans des formes qui, juridiquement, qui seront politiquement contestables, qui seront stratégiquement dangereuses, qui seront juridiquement valables. Alors pourquoi Ahmadinejad a fait ces déclarations et pourquoi l'Iran a un programme nucléaire militaire? Ou du moins, pourquoi le soupçonne-t-on d'avoir un programme nucléaire militaire puisque les Iraniens disent que leur programme est purement civil? Ce qu'il faut savoir, c'est que le texte même du TNP permet, n'interdit pas l'enrichissement. Au contraire, le traité de non-prolifération permet à tous les États non nucléaires qui ont signé le traité, en échange de leur renonciation aux armes nucléaires, à pouvoir disposer de toute la gamme de l'usage civil de l'énergie nucléaire et des utilisations de l'atome. Mais on voit bien l'ambiguïté, et on voit bien là qu'il y a effectivement, les Iraniens n'ont pas tort lorsqu'ils disent « on nous adresse un soupçon particulier puisque l'enrichissement n'est pas interdit par le traité, on interdit à nous ». Oui, mais effectivement on peut dire que c'est un traitement à part, mais ce traitement à part peut à mon sens se justifier dans la mesure où le président iranien a également fait des déclarations à part et qu'il n'y a pas d'autres chefs d'État qui ont appelé à rayer un pays de la carte. Mais on sait pourtant qu'il ne peut pas le faire. Pourquoi Ahmadinejad a fait ces déclarations? Eh bien, on peut penser que, surtout depuis la guerre d'Irak, l'Iran cherche en fait à occuper un espace stratégique qui est disponible. Les régimes arabes sont très critiques avec Israël, avec les Américains, mais ils sont alliés des Américains pour la plupart d'entre eux, mis à part la Syrie. Donc, ils ne peuvent pas trop critiquer la politique américaine. Et donc, Ahmadinejad, et on l'a vu aussi avec la guerre du Liban, pense que en critiquant très fortement Israël, et plus que critiquer fortement, puisqu'il appelle à la destruction d'Israël, et en se dressant comme le champion de l'anti-américanisme dans le monde, il va pouvoir élargir l'influence de l'Iran au-delà du monde chiite et occuper un espace disponible dans le monde arabe où les sunnites, qui normalement n'ont pas de vocation à avoir une adhésion par rapport à une cause chiite, vont dire eh bien, les Iraniens, bien sûr, ce ne sont pas des Arabes, mais eux, au moins, ils attaquent directement, ne serait-ce que verbalement, Israël et les États-Unis. Donc, il va jouer sur l'opposition à Israël, sur l'opposition aux États-Unis, pour essayer d'élargir son influence. Ce qu'il faut quand même également, à mon sens, remarquer, c'est que l'Iran est dans une position ambiguë, c'est que l'Iran fait peur à tout le monde, non seulement à ses voisins arabes et plus lointains israéliens, mais à l'ensemble du monde, mais l'Iran a également peur de tout le monde. Et les Iraniens disent régulièrement que lorsqu'ils ont été en guerre contre l'Irak de 80-88, ils ont été abandonnés par le reste du monde. C'est bel et bien l'Irak de Saddam Hussein qui avait attaqué l'Iran, et à l'époque, tout le monde, de la France aux États-Unis, soutenait non pas le pays agressé, mais le pays agresseur, parce que, quels que soient les défauts de Saddam Hussein, on estimait qu'il était un barrage à la poussée communiste, à la poussée révolutionnaire iranienne dans l'ensemble du Golfe. Comme toutes les révolutions, on attend toujours une transition thermidorienne en Iran comme ailleurs. Celle-ci semblait venir dans la fin des années 90. C'est ce que une grande partie des observateurs espéraient dans les années 90, c'est que l'Iran s'assagisse parce que l'Iran a tout simplement des problèmes de société. L'Iran doit satisfaire une jeunesse qui est de plus en plus avide d'ouverture sur l'extérieur, qui a accès à Internet et qui l'utilise fréquemment et qui supporte de plus en plus mal la chape de plomb sur laquelle le pouvoir religieux, la chape de plomb que fait peser sur la société le pouvoir religieux. Et sous le deuxième mandat Clinton, il y a eu un rapprochement entre l'Iran et les États-Unis qui commençait à porter ses fruits, avec à la fois une libéralisation graduelle, imparfaite, partielle, mais une libéralisation graduelle de la société iranienne, et un début de dialogue, une amorce de dialogue, même s'il y avait pour autant ce programme nucléaire, mais qui était moins développé avant, entre l'Iran et le reste du monde. L'Union européenne appelait ça le dialogue critique avec l'Iran, et les États-Unis avaient accepté de dire qu'il fallait prendre langue avec l'Iran, même si les sanctions mise en œuvre depuis 1979, depuis la prise d'otage de l'ambassade américaine et les sanctions économiques des États-Unis à l'égard de l'Iran n'étaient pas levées. Depuis, trois événements stratégiques sont survenus qui ont à la fois repoussé l'Iran, antagonisé les relations entre l'Iran et le reste du monde et en même temps renforcé l'Iran. Il y a eu tout d'abord le discours sur l'axe du mal de George Bush en janvier 2002, créant donc, mettant en avant un axe du mal composé de l'Irak, de l'Iran et de la Corée du Nord, qui étaient donc des pouvoirs à la fois jugés différents et dictatoriaux. Et on peut penser que ce discours, présentant l'Iran comme un adversaire alors qu'il y avait un débat interne en Iran sur l'attitude à avoir avec le monde extérieur, a plutôt renforcé les radicaux que les modérés. Mais l'événement le plus important encore a été la guerre d'Irak. Puisque la guerre d'Irak, à laquelle l'Iran n'a pas pris part, eh bien l'Iran a été le grand vainqueur de cette guerre. On peut dire que l'Iran a récemment gagné deux guerres auxquelles il n'a pas pris part, directement en tous les cas pour la seconde, la guerre d'Irak et la guerre du Liban, même si bien sûr on connaît les liens du Hezbollah avec l'Iran, même s'il serait en revanche trop réducteur de penser que le Hezbollah n'est que le bras armé de l'Iran au Liban. Mais en tous les cas, la guerre d'Irak, eh bien, est venue priver l'Iran de son adversaire principal, qui était l'Irak en tant qu'État relativement puissant et à peu près unitaire. Et surtout, il a permis d'étendre son influence sur ce pays et il a radicalisé, il a rendu service aux plus radicaux, puisque les Iraniens se sont dit, il y a deux pays différents, la Corée du Nord d'un côté, l'Irak de l'autre. L'Irak dit n'avoir pas d'armes nucléaires et il n'en avait pas et accepté les inspections internationales et on lui a fait la guerre. La Corée dit avoir des armes nucléaires et refuse les inspections et on ne lui a pas fait la guerre. Donc si l'on veut asseoir sa sécurité, il vaut mieux aller vers un programme nucléaire militaire que vers des négociations parce que pour un régime qui est en difficulté, eh bien, le programme, la capacité de dissuasion nucléaire reste le moyen. Et c'est à mon sens cela le but du programme militaire iranien. Moi, je crois personnellement qu'il y a un programme militaire, ou du moins que les Iraniens ne se ferment aucune porte et que, comme la France l'a fait en son temps, on poursuit au maximum les recherches en voyant le moment venu si on tourne le bouton militaire ou pas, mais en tous les cas, l'Iran ne se l'interdit pas. Je crois que cette fonction n'est pas tellement pour agresser les États voisins, plutôt que pour sanctuariser le régime iranien qui est en difficulté. À partir de là, il y a eu deux options. La voie des négociations lancées par l'Union européenne, la voie des menaces lancées par les Américains, dont il faut bien dire qu'à l'heure où nous parlons, aucune des deux n'a réellement réussi, peut-être parce que aucune des deux n'a été poussée à bout. Je vais conclure, parce que je vois que j'ai à peu près épuisé mon temps de parole, peut-être même votre patience, je ne sais pas. Mais en tous les cas, où en sommes-nous aujourd'hui? Eh bien, la grande question que l'on se pose aujourd'hui, c'est de savoir quel est le pire des scénarios, un Iran nucléaire ou une guerre pour éviter un Iran nucléaire. Les sanctions économiques sont difficilement envisageables, elles sont bien sûr envisageables, mais on doute qu'elles réussissent. Pourquoi? D'une part, parce que le monde ne peut pas, à l'heure actuelle, se priver du pétrole iranien et que, entre autres, la guerre d'Irak est venue augmenter les prix du pétrole, est venue renforcer le poids relatif de l'Iran comme producteur de pétrole et que, comme vous savez, il y a toujours cette image du détroit d'Ormuz contrôlé par l'Iran qui serait la carotide de l'Occident et que donc une guerre, enfin des sanctions économiques contre l'Iran qui le priverait de ses débouchés pétroliers, nous priverait également le reste du monde de ce pétrole qui nous fait défaut. Donc je ne crois pas trop à ce que l'Iran puisse dire « je mets mon pétrole, je le garde pour moi parce qu'il a besoin de le vendre pour vivre », mais en même temps le monde extérieur a du mal à s'en passer. Et puis il y a des désaccords, parce que le jeu de la Russie, de la Chine n'est pas le jeu des Américains ou des Européens, et que il y a par rapport à l'attitude à avoir vis-à-vis de l'Iran de graves divergences. Les Chinois et les Russes ont des intérêts spécifiques particuliers qui ne correspondent pas à l'agenda des Européens et des Américains qui, sur ce point, n'ont pas de graves divergences entre eux. Sanctions militaires, donc une guerre tout simplement, pas tellement d'ailleurs la répétition d'une guerre d'Irak, tout simplement parce que les États-Unis n'ont pas les moyens de faire une guerre du même type, ils sont à bout de leur capacité militaire conventionnelle, la guerre d'Irak les a complètement mobilisés, mais on pense bien sûr à des frappes chirurgicales pour détruire les installations. Le problème, c'est que le parallèle qui est fait souvent avec la centrale irakienne de Tamouz, détruite par l'aviation israélienne en juin 81, n'est pas tellement opérant, puisque cette centrale était construite à l'air libre, n'avait pas de défense. Les installations nucléaires iraniennes sont dispersées, enfouies, près des centres de population, et donc on peut avec cela retarder le programme nucléaire iranien, mais on ne viendra pas le détruire totalement. Et puis il y a bien sûr les 140 000 soldats américains qui sont en Irak, sont plus une chèvre au piquet par rapport aux menaces indirectes ou directes que l'Iran peut peser dessus que une force d'appui faisant peser des contraintes sur l'Iran. Et puis, il y a également tout simplement le paysage stratégique général par rapport au développement du terrorisme, par rapport au fossé grandissant entre monde musulman et monde occidental. Une nouvelle guerre, et on peut dire que, en quelque sorte, les États-Unis ont non seulement épuisé leurs cartouches militaires, mais également, en grande partie, utilisé leurs cartouches politico-stratégiques à la guerre d'Irak. Vu ce que l'on sait maintenant sur la guerre d'Irak et ses réelles motivations, même s'il sera plus difficile de faire la même opération sur l'Iran, même si les inquiétudes sur le nucléaire iranien sont beaucoup plus fondées qu'elles ne l'étaient sur l'Irak, mais la guerre d'Irak est venue priver d'arguments par rapport à l'Iran, où pourtant ces arguments sont plus réels. Alors, la voie est étroite, parce qu'il n'y a pas de bonne solution ou de solution miracle dans cette affaire, et je pense qu'il faut essayer, on ne pourra pas exclure l'Iran de la communauté internationale, ni intégrer l'Iran. Donc la voie possible, c'est d'essayer de réintégrer l'Iran dans la communauté internationale, et pour cela, d'avantager ceux qui sont en faveur d'un dialogue avec le monde occidental, qui ont été affaiblis par la guerre d'Irak, et d'isoler ceux qui sont pour une opposition frontale avec le monde occidental, qui ont été renforcés par cette guerre. Je pense qu'on aura peut-être un accord possible avec l'Iran lorsqu'il y aura une négociation globale, mais qui ne doit pas être faite par les Européens, dans laquelle les Américains doivent s'engager et pour donner des assurances à l'Iran sur le fait qu'il n'y aurait pas d'opération militaire contre ce pays et que donc les raisons qui les poussent à avoir un programme nucléaire militaire ont bien des inconvénients, mais n'ont pas les avantages qu'ils ont. Je sais très bien que cette voie était étroite, mais pour l'instant, c'est la seule qui n'ait pas été tentée. et de plus en plus aux États-Unis même, des voix s'élèvent pour dire qu'il faut reprendre le dossier à zéro, il faut que nous engagions une grande négociation globale avec l'Iran, qui porte d'ailleurs aussi sur l'Irak, parce que nous avons besoin de l'Iran pour essayer de nous sortir du bourbier irakien, mais qui porte également sur le nucléaire, qui porte sur le Liban, qui porte sur l'ensemble des sujets qui nous séparent pour l'instant et qui nous antagonisent. Une fois encore, je crois qu'il serait vain d'espérer une solution miracle. L'Iran est un pays qui est pour l'instant dangereux, mais en même temps, c'est un pays avec lequel nous devrons un jour ou l'autre traiter. Et donc, la stratégie la plus la porteuse, en tous les cas, la plus d'espoir à terme, c'est d'entamer une grande négociation avec eux en essayant de jouer sur les ressorts de la société iranienne qui sont très nombreux. Parce que ce qui est certain, c'est qu'il y avait une mise en cause de plus en plus forte du régime religieux iranien. Et que, comme toujours, en période d'affrontement international, eh bien, on ressoude une communauté. Ceux qui critiquent le pouvoir, lorsqu'il y a des menaces extérieures, font baisser leurs critiques ou se soudent. Et je pense pour ma part que la guerre d'Irak est venue non seulement renforcer l'Iran sur la scène régionale, mais renforcer les radicaux sur la scène politique iranienne. Et donc, c'est un peu aujourd'hui le chemin inverse qu'il faut essayer de prendre. Il n'y a aucune garantie que cela réussisse, mais je crois que les autres solutions qui sont envisagées, notamment un affrontement militaire pour détruire les capacités nucléaires iraniennes existantes, seraient beaucoup plus porteuses de mauvaises nouvelles. L'Iran n'a pas encore la bombe, il n'est pas encore tout à fait prêt à l'avoir. Il y a, en tous les cas, encore du temps pour tenter la voie d'une négociation globale avec lui.
Bonsoir. L'avantage de passer en second, nous en parlions tout à l'heure, c'est que ça permet de délaguer et d'essayer de rebondir ce que je vais tenter de faire. Je crois que quand on est confronté à un problème international aussi important que celui auquel nous sommes confrontés avec l'Iran et l'acquisition par l'Iran du nucléaire à travers l'enrichissement de l'uranium, il convient d'abord d'essayer d'entrer dans la logique de celui qui pose le problème, parce que c'est peut-être une façon après de comprendre à la fois ses comportements et de voir quelles peuvent être les meilleures solutions, s'il y en a de bonnes. Nous sommes ici en Europe, en France, en Occident, dans une certaine vision qui est forcément unilatérale de cette affaire iranienne. Si l'on essaye de se placer à la place de Téhéran, quel est le problème qui se pose pour ce pays, qui est un grand pays, à très forte conscience de soi du point de vue national, qui a une très longue histoire, et ça compte beaucoup dans cette affaire, qui n'a pas d'amitié très profonde pour le monde arabe qui l'entoure et pour cause, puisque ce monde arabe l'a envahi, je crois que c'est aussi une donnée qui importe. En matière de sécurité, c'est un pays qui a une sorte de phobie ou une névrose de l'encerclement. 11 pays, pas un de moins, 11 frontières d'une certaine façon, même s'il y a le golfe Persique, séparent l'Iran de son environnement. C'est énorme. Parmi ces pays, il y a aussi, plus ou moins proches, des puissances nucléaires. L'ennemi, je me place du point de vue iranien en disant ça, c'est-à-dire Israël, et d'autres pays qui peuvent l'être ou l'être moins, Pakistan, Inde et Russie. C'est donc un pays qui a une certaine conscience de sa fragilité sécuritaire, qui explique très probablement qu'en effet ce soit sous le Shah, contrairement à ce que l'on croit, que ce pays s'est engagé sur la voie du nucléaire, évidemment civil d'abord. C'est ensuite un pays qui, toujours du point de vue sécuritaire, et précisément à cause de tout ce que je viens de dire, a ressenti deux ou trois événements comme une menace au sens où nous-mêmes, Européens ou Occidentaux, nous avons ressenti, par exemple, la menace soviétique. C'est d'abord, évidemment, la guerre de 80 à 88 avec l'un de ses voisins, l'Irak, 1 million de morts. C'est aussi la guerre du Golfe, qui a amené dans le Golfe Persique et dans toute cette région une présence américaine renforcée. Et c'est bien sûr, je ne reviendrai pas beaucoup là-dessus puisque Pascal Boniface, en a très longuement parlé, l'intervention américaine en Irak qui a apporté un supplément de présence américaine dans la région, donc aussi un supplément de menaces et un supplément de sentiment d'insécurité. C'est d'ailleurs extrêmement intéressant de voir ce qu'en disent les Iraniens eux-mêmes, au fond. Et il y a en ce sens un entretien que le ministre de la Défense, M. Chamkhani, qui l'est toujours d'ailleurs, c'est aussi l'intérêt de s'y référer, avait donné dans un quotidien qui s'appelle Sadiate al-Rus, quotidien iranien dans lequel il avait exprimé un mois avant l'intervention américaine en Irak quelle était la vision stratégique de son pays. Et on voit donc dès 2003, ce qui d'ailleurs avait déjà été exprimé tout à fait officiellement par de hauts responsables iraniens en 2002 et même avant, qu'après la guerre du Golfe, il y a eu une véritable prise de conscience et un véritable changement qualitatif et quantitatif du côté iranien. Ce ministre parle de trouver un nouveau modèle de défense et de sécurité, à la fois vis-à-vis des voisins immédiats, bien sûr par rapport aux puissances nucléaires environnantes, et cela va de soi vis-à-vis des Américains plus précisément. Ce qui est également très intéressant dans cet entretien avec le ministre de la Défense iranien, c'est qu'il explique très clairement que le Golfe Persique, nous avons nous souvent employé à propos d'autres régions cette expression, est un enjeu vital, je dis bien vital, pour l'Iran. On comprend donc dès lors pourquoi l'Iran souhaite, dans cet environnement, acquérir le nucléaire. La question qui se pose, me semble-t-il, l'une des premières, c'est a-t-on le droit ou au nom de quoi pourrait-on empêcher un pays qui en a les moyens financiers, intellectuels, de vouloir, pour défendre sa sécurité, comme nous l'avons voulu nous-mêmes, acquérir le nucléaire. Ma réponse personnelle, qui ne préjuge pas de la suite, c'est que je ne vois pas très bien au nom de quoi on pourrait l'en empêcher. Pourquoi les arguments de sécurité, donc une stratégie de dissuasion, seraient-ils acceptables pour les uns et ne le serait-il pas pour les autres? Toujours dans cet entretien, je m'y réfère beaucoup dans cette première partie de mon exposé parce que je crois qu'il est toujours plus intéressant d'écouter les acteurs, évidemment dans une traduction que je crois fidèle, parce qu'en général, les acteurs disent les choses, le tort que l'on a est souvent de ne pas les entendre ou de ne pas les croire. Et donc, dans ce même entretien, Chamkhani explique qu'il y a deux sortes de principes sur lesquels les Iraniens vont asseoir leur politique de défense et de sécurité et leur stratégie dissuasive. Les uns qu'il appelle les moyens durs, c'est-à-dire le renforcement du potentiel militaire, c'était d'ailleurs à l'époque une façon assez claire, sans le dire tout à fait aussi nettement, que l'Iran avait pour objectif d'acquérir le nucléaire. Et puis, il parle de principes doux. Ces principes doux, ce sont d'abord les principes stratégiques eux-mêmes, qui sont des principes défensifs. Ils ne sont pas des principes préventifs. Il emploie le même mot que George Bush, ce qui est intéressant. Ce sont des principes préventifs et non pas des principes agressifs. Il parle aussi de légitimité politique, et là, on rejoint deux aspects de ce problème que Pascal Boniface avait tout à l'heure abordé. D'une part, la légitimité intérieure, bien entendu. Or, notamment le pouvoir d'aujourd'hui, celui d'Ahmadinejad, a besoin d'asseoir sa légitimité puisque, de fait, il a échoué du point de vue intérieur, notamment sur le terrain économique, ce qui me paraît un point capital. Mais ça veut dire aussi légitimité régionale et légitimité internationale. Le troisième point, c'est l'influence de la foi. Voilà qui est extrêmement intéressant d'entendre un ministre de la Défense parler de l'influence de la foi comme principe doux d'une stratégie dissuasive. Sur le premier point, l'Iran a déjà allé assez loin, puisqu'il a mis au point aujourd'hui des missiles de courte, de moyenne et de longue portée, c'est-à-dire des vecteurs pour transporter des armes, puisqu'il a également développé, y compris sous le couvert de mise en orbite de satellites civils, des rampes et des systèmes de lancement qui sont l'autre aspect nécessaire du nucléaire, et puis qu'il se lance donc dans l'enrichissement de l'uranium. Une fois que l'on a compris que l'Iran, malgré ses propos, a donc pour objectif, et pour toutes ces raisons, la volonté d'acquérir le nucléaire militaire, il est évident que pour cela, il est obligé d'avoir une et des stratégies à la fois de croissance, d'installation en tant que puissance régionale, mais aussi des stratégies de déstabilisation. Dans la dernière période que nous venons de vivre, nous avons assisté, me semble-t-il, nous avons vu à l'œuvre un certain nombre de ces stratégies de déstabilisation. La première, je ne les mets pas forcément dans un ordre prioritaire. La première, tout simplement parce que nous sortons du 22 août, si j'ose dire, c'est de voir qu'il a réussi quand même à diviser le camp que l'on qualifie faussement d'occidental, puisqu'en réalité, nous sommes sur 5 plus 1, c'est-à-dire l'Allemagne, et qu'il y a au milieu de ceux qui ont à décider de l'attitude à adopter, la Russie et la Chine. Il y a division du camp occidental. Pour tous ceux qui suivent de très près la diplomatie et les relations internationales, on sait que la Russie et la Chine ne sont pas aujourd'hui alignées sur les positions des grands pays occidentaux, l'Europe, bien entendu, l'Allemagne et les États-Unis. La Russie, cela pourrait évoluer. La Chine, c'est une toute autre affaire, puisque la Chine, pour son développement économique, est en très grande partie tributaire du pétrole et en particulier du pétrole iranien dont elle a besoin. Il y a donc très peu de chances pour que le camp en question, c'est-à-dire le nôtre, celui auquel nous appartenons, puisse arriver à une attitude commune. Il y a d'ailleurs un document confidentiel sur les sanctions qui ont été élaborées par l'ensemble de ceux dont je viens de puissances dont je viens de parler. Et quand on a connaissance de ce document, on se rend compte que nous sommes en face de sanctions qui n'en sont pas et qu'en réalité, il n'y a rien de très sérieux ou de très contraignant ou de très coercitif qui puisse être mis à l'œuvre. Le deuxième facteur de déstabilisation, il est évidemment, dans un premier cercle régional, je ne m'étendrai pas longuement sur l'Irak, puisque l'Iran est en effet la clé de voûte de la stabilisation de l'Irak à travers les chiites irakiens. Il n'y a pas de solution à la guerre qui a été entamée par les Américains en 2003 en Irak, sans que, en effet, l'Iran y soit associé. Mais l'Irak, c'est-à-dire la montée en puissance des chiites, chiites qui se trouvent également au pouvoir en Syrie, avec les Alaouites, qui se trouvent évidemment très fortement implantés au Liban, mais qui sont également nombreux en Arabie Saoudite, permettent à l'Iran, nous allons développer un certain nombre de ces éléments, permettent à l'Iran de monter en puissance régionalement à travers ce fameux arc chiite dont on nous parle beaucoup et à juste titre, et qui contribue très largement à l'installation de l'Iran parallèlement au nucléaire ou en connexion avec le nucléaire comme installation de grandes puissances régionales. En même temps que l'Iran, à l'ombre de cet enrichissement de l'uranium, utilise ce que lui apporte l'actualité régionale, remarquablement, puisque, comme par miracle, l'Iran s'est trouvé débarrassé en très peu de temps de deux de ses principaux ennemis, les talibans en Afghanistan et Saddam Hussein en Irak. Donc l'Iran s'est parfaitement utilisé, avec une très grande maîtrise, ce que les intérêts, les réussites et les erreurs, évidemment, des autres, lui offrent comme opportunité. Alors, dans ce cadre régional, la principale déstabilisation se fait bien sûr autour d'Israël, du conflit israélo-palestinien, et bien entendu, à travers la Syrie et le Liban. Et c'est là où l'imminence, je dis imminence non pas au sens de l'instant, mais des années à venir, de l'imminence comme puissance nucléaire de l'Iran pose certainement le plus grand problème. L'Iran, depuis un certain temps, depuis un certain nombre d'années, dans la foulée de l'après-guerre du Golfe et au moment du début de la seconde intifada, a entrepris une remarquable politique de déstabilisation renforçant sa montée en puissance. Je ne vais pas revenir très longuement sur ce que Pascal Boniface a développé tout à l'heure et dont il a à juste titre fait la connexion, c'est-à-dire d'un côté la volonté de l'Iran de devenir une puissance nucléaire et d'autre part les propos d'Ahmadinejad, son objectif, la destruction, une première dans l'histoire des relations internationales, la destruction d'un État. Si je n'y reviens pas longuement, c'est simplement parce que je tiens à dire de deux phrases essentielles ceci. On ne peut pas ne pas prendre très au sérieux, faire le pari qu'il n'arrivera rien, quelles qu'en soient les raisons. Quand un État choisit pour objectif de sa montée en puissance militaire et sécuritaire le génocide, or l'objectif avoué de l'Iran à travers son président et les mollahs qui l'entourent, reprenant en cela d'ailleurs le dogme et le credo khoméniste depuis l'avènement de la révolution islamiste, et la destruction de l'État d'Israël, c'est-à-dire un nouveau génocide des Juifs. La déstabilisation dont je parle autour du conflit israélo-palestinien se situe très exactement dans cette logique-là. Elle n'est pour l'instant pas possible par le nucléaire. Pour ma part, je refuse catégoriquement de penser que quand l'Iran aura le nucléaire, car je n'ai aucun doute que l'Iran l'aura, le génocide ou la tentative de génocide n'aura pas lieu, nous savons trop dans l'histoire, non seulement avec les Juifs, mais avec tant et tant d'autres peuples, que tout énoncé de ce genre doit être pris à la lettre, au pied de la lettre. Donc tant que ça n'est pas possible par le nucléaire, nous le voyons à l'ombre de cette préparation du nucléaire, avec d'abord un accord avec la Syrie, un accord sécuritaire et militaire, qui a été signé, remarquez bien la concordance des dates, en juin 2006, c'est-à-dire en juin de cette année. Or cet accord, dont j'ai une traduction du texte, en tous les cas pour partie, dit notamment ceci, que l'Iran s'est paru dans un quotidien londonien qui est arabe, de langue arabe, qui s'appelle Al-Sharq Al-Awsat. L'Iran considère la sécurité de la Syrie comme sa propre sécurité. Cela nous rappelle, n'est-ce pas, un certain nombre de choses, comme en matière de dissuasion, à propos de l'Europe, la France en particulier, et l'Allemagne. Dans cet accord entre Syrie et Iran, signé quelques semaines avant la guerre du Liban de cet été, l'Iran a accepté de financer les transactions militaires syriennes avec la Russie, la Chine et l'Ukraine, d'équiper l'armée syrienne de canons, d'ogives et de véhicules de guerre, de missiles fabriqués par les industries iraniennes de la défense. En échange, la Syrie, pour sa part, a renouvelé ses précédents accords avec l'Iran, qui autorise aux camions de munitions iraniens de tout genre de passer par la Syrie pour entrer au Liban. Il y a donc l'axe irano-syrien. Et bien entendu, il y a derrière ce que nous avons vu à l'œuvre cet été, c'est-à-dire le Hezbollah au Liban. Et là encore, je vais m'en tenir à ce que disent et expliquent les Iraniens eux-mêmes. C'est toujours dans ce journal londonien, qui est un très grand journal arabe, l'un des plus grands, Al-Sharq al-Awsat, un haut responsable iranien est venu, toujours avant la guerre de cet été, rencontrer en comité restreint un petit groupe de diplomates occidentaux à Londres. Il a souligné l'importance du Hezbollah pour l'Iran, j'ouvre les guillemets, « Le Hezbollah est l'un des piliers de notre stratégie sécuritaire et représente la première ligne de défense iranienne contre Israël. Nous refusons l'idée selon laquelle il doit être désarmé. » Je vais m'appesantir sur le Hezbollah un instant, qui a un rapport direct avec le nucléaire, évidemment, pour revenir ou pour prolonger cela par une déclaration de Nasrallah, le secrétaire général du Hezbollah, qui a été prononcée le 23 mai 2006 lors d'une conférence sur la culture de la résistance. C'était une conférence qui avait lieu à Beyrouth. Nous pouvons, je cite, ouvrez les guillemets, nous pouvons frapper toute la région nord d'Israël avec des milliers de roquettes. Tout Israël se trouve actuellement à portée de nos missiles. Ses villes portuaires, ses bases militaires, ses industries et tout le reste se trouve à portée de tir. Je persiste à dire que nous disposons d'un stock d'armes significatif, aussi bien en termes de qualité que de quantité. Un autre avantage que je tiens à mentionner est la géographie du Liban et de la Palestine. La plupart des régions vitales d'Israël sont concentrées dans la partie nord de la Palestine occupée, alors que le sud est inhabité et désolé. Plus de 2 millions de Juifs vivent dans le nord de la Palestine occupée, qui comprend des centres de divertissement et des stations touristiques, des industries, des régions agricoles et d'importants aéroports et bases militaires. C'est pour nous un avantage, notre présence au sud Liban, à proximité de la Palestine occupée, est notre plus grand avantage stratégique. J'ai longuement insisté là-dessus parce que je crois qu'il n'est pas possible de dissocier la volonté de l'Iran d'acquérir le nucléaire de l'ensemble de sa stratégie régionale. Et je n'ai pas abordé encore son aide au Hamas, qui était d'ailleurs précédée d'une aide au Fatah. Sans doute vous souvenez-vous de l'affaire du Karin A, ce bateau qui avait été appareillé par les Israéliens et qui renfermait 50 tonnes d'armes en provenance de l'Iran à destination directe de Yasser Arafat. Il y a donc une utilisation extrêmement remarquable de l'ensemble des facteurs régionaux par l'Iran. Tout cela pourquoi, indépendamment de la sécurité? Pascal Boniface a employé tout à l'heure le mot de sanctuarisation. Et je crois qu'en effet, il y a aujourd'hui de la part de l'Iran la volonté de sanctuariser avec le nucléaire, dans le cadre de cette stratégie de dissuasion à l'œuvre et qui aboutira, de sanctuariser l'islam radical dont l'Iran, me semble-t-il, a aujourd'hui pris la tête. Nous avons vu dans les dernières années, sur l'ensemble de la région, les conflits, les guerres, les manipulations qui ont eu lieu et qui ont encore lieu. Elles ont lieu aujourd'hui sans que l'Iran soit encore une puissance nucléaire. Et par conséquent, elles peuvent encore aujourd'hui, du point de vue international, à la fois le concert des nations, la communauté internationale, l'ONU, les grandes puissances, trouver des ajustements de règlement qui ne sont pas forcément satisfaisants. Nous l'avons vu cet été sur l'Iran, sur le Liban, pardon, mais il y a encore des possibilités de faire quelque chose. Les mêmes événements, les mêmes volontés de déstabilisation régionale, quand il y aura le nucléaire, que permettront-elles ? Plus grand-chose, précisément parce que l'Iran aura son arme de dissuasion. Et qui osera à ce moment-là s'attaquer à l'islam radical, que je résume de cette formule globalisante, même si chiisme et sunnisme ne sont pas à confondre, mais en ajoutant que cet islam radical n'est pas seulement à l'œuvre dans la région où il prend de plus en plus le pouvoir, nous l'avons vu avec Hamas, et nous le voyons aujourd'hui au Liban avec la forte présence, y compris au sein du gouvernement du Hezbollah, mais parce que cet islam radical est aussi présent dans toute l'Asie et dans tout le continent européen, et même aujourd'hui également sur les deux continents américains. Ce qui m'amène évidemment à poser une question fondamentale sur laquelle je conclurai, et qui est de savoir si, même en comprenant les raisons pour lesquelles l'Iran peut vouloir le nucléaire, si nous pouvons, si nous devons l'accepter. Si ça n'est pas, au-delà de cette acquisition, l'ensemble de nos intérêts vitaux propres, de nos identités nationales et culturelles qui sont en jeu à terme. Alors, je ne reviendrai pas sur les différentes options de solutions qui se présentent, tout simplement parce que je suis là-dessus d'accord avec Pascal Boniface. Je voudrais simplement préciser ceci, c'est qu'en ce moment même, il y a de plus en plus d'établissements bancaires dans le monde, à cause de tout ce qui se passe, bien entendu, autour de l'Iran, qui commencent à renacler pour entretenir ou favoriser commerce, industrie, vie des affaires en Iran. Le mouvement se dessine. Ce mouvement me paraît important, parce que c'est le seul qui pourrait atteindre, s'il se confirmait, ce que, du temps de la révolution khoméniste, on appelait le bazar, et qui ne se présente plus tout à fait comme ça aujourd'hui, mais qui fait et défait les grands régimes en Iran. Je ne crois pas à l'asphyxie ou de sanctions économiques. En revanche, cette asphyxie bancaire et cette asphyxie possible des affaires est peut-être, je dis bien peut-être, l'une des voies. Par ailleurs, je pense que nous devons, nous, en tant qu'Européens, occidentaux, répondre à cette question. Est-ce que nous sommes prêts à accepter l'inflation que produirait un choc pétrolier et les difficultés énormes qu'un nouveau choc pétrolier engagerait? Sommes-nous prêts à l'endosser éventuellement? Ma réponse est que je ne le crois pas. Sommes-nous prêts aujourd'hui à favoriser, s'il y avait une option militaire, à favoriser ce clash des civilisations dont on parle tant? Je ne le crois pas non plus. Je dirais donc que non seulement la marge est étroite, mais qu'en réalité, il me semble que tous les événements qui se déroulent sous nos yeux traduisent malheureusement à la fois le piège dans lequel nous sommes enfermés et une certaine impuissance générale du côté européen et occidental en particulier. Merci.
Bien, merci. C'est passablement déprimant tout ça. Mais donc, je vais tout de suite demander à Pascal Boniface de réagir sur certains des points d'Elisabeth Chemla.
Bah, je dirais que on a certainement moins de points de désaccord qu'on aurait imaginé initialement, à la fois sur le constat qui part du complexe d'encerclement dont nous avons parlé tous les deux, qui rappelle d'ailleurs un peu en son temps l'Union soviétique. L'Union soviétique avait, malgré son immense étendue, avait un complexe d'encerclement Et l'attitude telle qu'il y a, ce qu'on a d'encerclement, faisait peur au reste du monde. Et là, on est un peu avec l'Iran dans la même solution. Donc il y a un accord sur le constat. Sur la sanctuarisation d'un islam raïkad, d'un islam chiite, oui, je suis aussi d'accord. Et je pense que là où il faut donc réfléchir de façon plus intense, de voir, parce que finalement, nos marges de manœuvre sont limitées. Nos marges de manœuvre par rapport à l'Iran sont limitées, tout simplement parce que l'Iran, c'est pas l'Irak. On voit déjà les difficultés que nous cause et que nous causerons encore pour longtemps la guerre d'Irak. Je pense que vous avez noté les déclarations du chef d'état-major britannique la semaine dernière, disant que la présence militaire britannique en Irak est plus un problème qu'une solution. Et donc, par rapport à l'Iran, il faut multiplier cela à une grande échelle, surtout que ça serait la deuxième fois en peu de temps. Donc, nos marges de manœuvre sont limitées, et je pense que si, bien sûr, le risque d'un pouvoir agressif sanctuarisé serait non, et je veux dire, comme il y avait Chemla, là où peut-être je me sépare d'elle, c'est-à-dire que si l'Iran avait l'arme nucléaire, on ne peut rien exclure, évidemment, mais je ne crois pas à la possibilité d'un pouvoir fou qui attaquerait Israël, parce que ce que veulent Ahmadinejad et ses comparses, c'est rester au pouvoir. Et s'il attaquait Israël, il ne resterait pas au pouvoir, puisqu'il serait éliminé physiquement, très rapidement. Donc ça, c'est... Et que on ne peut... Alors on peut dire, bien sûr, il y a toujours des fous qui pourraient faire ça, mais quand on est au pouvoir, on n'est pas fou dans ce sens-là. On veut rester au pouvoir, et on ne peut pas mettre les mêmes types de raisonnements par rapport aux auteurs d'attentats suicides, par rapport à des gens qui sont au gouvernement. Ils peuvent, eux, aider des auteurs d'attentats suicides, ils ne vont pas les commettre directement. Donc, je suis, enfin, malheureusement, on ne peut jamais être sûr à 100%. Effectivement, les gens ont plutôt tendance à dire, plus tendance à dire ce qu'ils font qu'on ne le pense, mais là, je crois qu'il s'agit, dans le cas, les phrases d'Ahmadinejad appelant Israël trahir la carte, sont plus... je vais faire quand même attention aux mots que je vais utiliser parce que les déclarations sont graves, mais c'est plus du domaine de la vantardise que du domaine du possible. Heureusement, ce n'est pas possible. Mais là où il y a un enjeu véritable, c'est que l'arme nucléaire, effectivement, viendra donner des marges de manœuvre beaucoup plus grandes au pouvoir qui les a. On voit déjà finalement que sans arme nucléaire, nos moyens de rétorsion à l'égard de l'Iran sont relativement minimes, faibles. Dès aujourd'hui. Et ils seront encore plus faibles si l'Iran avait l'arme nucléaire, mais du coup, on peut se demander ce qui changerait, puisque nos moyens de rétorsion à l'égard de l'Iran sont déjà, alors que l'Iran n'a pas encore l'arme nucléaire, sont déjà relativement faibles. Et donc, ceci me pousse un peu plus dans la conviction que le véritable enjeu, c'est de voir comment faire émerger un autre pouvoir en Iran, parce que l'Iran n'est pas voué à être dirigé par des gens du type Ahmadinejad ou Khomeini il y a 20 ans. Il y a eu Khomeini, en ce pouvoir s'est un peu adouci, pardon, il s'est de nouveau durci, mais ce n'est pas une fatalité génétique ou ethnique que l'Iran soit dirigé par ce type de dirigeant. Il y en a eu d'autres dans le passé, y compris Mossadegh, qui donnait une toute autre figure et une toute autre ouverture par rapport à l'extérieur. Et donc, je crois que la question principale, c'est, un, est-ce que l'on peut empêcher l'Iran d'avoir l'arme nucléaire? Et je serais peut-être moins pessimiste qu'Elisabeth Chemla parce que les choses ne sont pas encore faites, il n'est pas encore trop tard. Il y a bien sûr un espace réduit, il y a plus de chances que d'ici 10 ans l'Iran ait l'arme nucléaire qu'il ne l'ait pas, mais il est encore possible de faire en sorte que cela puisse être évité, et surtout non seulement par rapport à la région, parce que ça serait la fin du régime de non-prolifération des armes nucléaires, et autant je pense qu'à quelques États nucléaires on peut faire jouer la dissuasion, si il y a une trentaine d'États qui ont l'arme nucléaire, la guerre nucléaire accidentelle, non voulu, mais fait par un enchaînement ou par simplement une faille technologique, redevient possible. Et là, c'est une perspective effectivement effrayante. Donc, première chose, c'est très grave par rapport à la prolifération, il faut faire en sorte d'éviter cette perspective qui est plus probable qu'improbable, mais sur laquelle on peut encore agir, et surtout, comment faire en sorte pour que un pouvoir iranien conforme à une tradition iranienne, qui est un grand pays, une grande civilisation, et qui n'est pas forcément voué à être dirigé par des gens dont l'ouverture au monde extérieur est quand même proche de zéro.
Une question que je voudrais poser à Elisabeth Chemla, comme elle est spécialiste du Proche-Orient. Quel est l'état d'esprit et l'état de la pensée géopolitique en Israël par rapport à cela? Puisque vous avez parlé justement des positions et de la stratégie iranienne à travers les déclarations très intéressantes du ministre de la Défense, quel est l'état d'esprit en Israël en ce moment, non pas l'état de l'opinion, hein, j'entends bien, mais l'état de la réflexion géopolitique?
Alors je crois que il y a... D'abord, je ne m'attendais pas à cette question, mais j'ai...
Vous devez avoir des textes. C'est ça. Voilà, vous devez avoir un texte. Voilà.
Alors, toujours dans le cadre, les acteurs parlent eux-mêmes. Le chef du Mossad, je répondrai sur aujourd'hui, mais c'est intéressant de remonter un peu en arrière. Le chef du Mossad en 2002 s'appelait Ephraïm Halevi. Et il a fait une grande conférence devant le Conseil de sécurité de l'OTAN en juin 2002. Donc c'est, là encore, la date est intéressante. Et à cette époque-là, il avait donc 2002, les Israéliens étaient déjà évidemment obsédés par l'Iran. Ça fait très 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 longtemps que les Israéliens sont convaincus que l'Iran est le pays pour eux, beaucoup, le plus dangereux, beaucoup plus que l'Irak. Je me souviens d'ailleurs avoir rencontré moi-même le ministre de la Défense israélien, Ben Eliezer, en 2003, très peu de temps avant l'intervention américaine en Irak, qui m'avait dit lui-même, les armes de destruction massive irakiennes, on ne sait pas très bien où elles se trouvent, pour nous, état-major et renseignement israélien, il n'y en a pas. Je parle évidemment de nucléaire. Alors je reviens à 2002. À propos de l'Iran, Halevi a dit ceci devant le Conseil de sécurité de l'OTAN. Nous pensons que la signature de l'Iran apposée à la Convention contre l'utilisation de l'arme chimique n'est qu'une façon de dissimuler la construction d'une infrastructure à double objectif, une infrastructure civile transformable très rapidement en unité de production de grandes quantités de gaz toxique VX. Donc, pourquoi je suis allée chercher cette déclaration? C'est parce que je crois que l'Iran, et précisément son immense capacité potentielle à la fois intellectuelle, financière et militaire, inquiète profondément les Israéliens. Alors, bien sûr, il y a la guerre du Liban qui a eu lieu cet été. Et là-dessus, je pense que nous n'avons pas, avec Pascal Boniface, tout à fait la même vision des choses. Les responsables israéliens, les responsables militaires israéliens, jugent que cette guerre du Liban leur a démontré qu'ils étaient en situation de faiblesse et qu'il leur fallait absolument réviser de fond en comble toute leur stratégie et leur méthode de dissuasion. Pour Israël, cette guerre du Liban a été un terrible ébranlement, pas seulement sociétal, mais réellement du point de vue militaire et stratégique. Et curieusement, parce que curieusement, c'est pas bien de dire des choses comme ça, ce n'est pas juste. Mais on a vu un Israël fort à cause des bombardements, tandis que d'ailleurs les images ne montraient jamais un seul combattant du Hezbollah. C'est quand même intéressant à voir. On aurait dit que le Hezbollah n'existait pas. Et donc ces images que nous avons vues pendant tout ce mois de juillet, tout ce mois d'août, étaient des images paradoxales, je vais dire. Paradoxales au sens où elles ont masqué, en réalité, une chose qui apparaissait, je pense, pour la première fois de façon aussi significative et aussi dramatique pour l'establishment militaire israélien, à savoir qu'il n'était absolument pas à la hauteur de la situation. Et qu'il n'avait ni envisager sérieusement ce qui pose évidemment derrière tout un certain nombre de questions. Comment est-ce possible? Comment était-ce encore plus possible alors que c'était Sharon qui, jusque en décembre de l'année dernière, était aussi le chef des armées et sur un pays qu'il connaissait extrêmement bien? Et c'est pour ça pourquoi, pour ma part, je ne crois pas du tout qu'il y aura très rapidement un deuxième round, l'a dit. Je crois que, pour tout ce que, en tous les cas, il en est rapporté par à la fois les responsables israéliens, l'Institut Stratégie Jaffi, etc., il est clair que les Israéliens doivent entièrement revoir leur copie. Donc, ils sont très inquiets. Et ils sont d'autant plus inquiets que si la communauté internationale n'arrive pas à endiguer la volonté de puissance et d'acquisition du nucléaire de l'Iran, ils ont l'impression, en dehors de leur nucléaire, à eux, bien entendu, mais ils ne sont pas signataires du traité de non-prolifération, ils ont l'impression qu'ils ne sont pas aujourd'hui en mesure de répondre à toute cette stratégie de déstabilisation régionale et proche-orientale dont je parlais tout à l'heure. C'est probablement la période la plus difficile pour les responsables israéliens depuis la création de l'État d'Israël et peut-être le choc de 73.
Une question maintenant à vous deux, mais d'abord peut-être à Pascal Boniface. Est-ce que vous ne pensez pas que finalement l'échec ou l'impossibilité ou le caractère impraticable des sanctions, et on vient de voir maintenant ce qui s'est passé en Corée du Nord, va conduire, je dirais, de manière quasiment inévitable à une prolifération?
Non, le pire n'est pas certain, et la prolifération, elle est néanmoins, malgré tout, contenue. Si on se rappelle des prédictions du président Kennedy dans les années 60, qui s'appuyaient sur des appréciations des services de sécurité, des stratèges, on disait qu'il pouvait y avoir, d'ici 20 ou 30 ans, donc il y a maintenant une quinzaine ou une vingtaine d'années, entre 20 et 30 pays nucléaires. On en est, alors la prolifération existe, mais on n'en est qu'à 5 plus 4. Il y a aujourd'hui 9 pays nucléaires, et il y a le gros problème, et l'Iran en dixième. Alors après, quels seraient les autres pays susceptibles de se mettre sur la piste de décollage nucléaire? Eh bien, on prolifère toujours par rapport au programme de l'autre. L'URSS l'a fait par rapport aux États-Unis, la France par rapport et à l'URSS et aux États-Unis pour des raisons différentes, la Chine par rapport à l'URSS, l'Inde l'a fait par rapport à la Chine, le Pakistan par rapport à l'Inde, Israël, c'est un cas un peu différent, c'était là aussi une sanctuarisation au sens premier du terme pour comme compensation démographique et pour préempter un éventuel déséquilibre conventionnel qui n'est pas venu, mais sur lequel les dirigeants israéliens n'avaient pas de certitude lorsqu'ils sont lancés dans le programme nucléaire, et l'Iran, c'est un peu contre Israël, contre les États-Unis, etc. Donc là, par rapport au programme coréen, quels seraient les candidats au nucléaire? C'est le Japon, Taïwan, la Corée du Sud. Mais dans ces trois pays, pour l'instant, à la fois le parapluie nucléaire existant américain, le tabou nucléaire au Japon, même si la droite nationaliste réclame le fait d'avoir des armes nucléaires, la politique toujours majoritaire, la Sunshine Policy pour la Corée du Sud, font que je ne crois pas que ces trois pays, à court terme, se dirigent vers l'arme nucléaire. L'Afrique du Sud est le seul État aujourd'hui qui, ayant un programme nucléaire, y a renoncé, ainsi que l'Argentine et le Brésil, dont on ne voit pas quelles seraient aujourd'hui les motivations profondes pour qu'elles redémarrent. Quant à l'Iran, eh bien, Israël a déjà l'arme nucléaire, donc ça ne créerait pas de vocation nouvelle, et on ne voit pas dans les circonstances actuelles, à vue humaine, quel pays arabe a les moyens politiques, scientifiques, mais surtout politiques, de se lancer dans une telle aventure. Donc la prolifération peut être contenue, mais simplement le climat que cela crée et les tensions supplémentaires que cela vient créer ne peuvent pas empêcher de penser que une guerre du fait de la prolifération ou à propos de la prolifération est toujours possible, qui, elle, aurait des conséquences très difficilement calculables.
Oui, parce que je pensais que l'utilisation de l'arme nucléaire comme moyen strictement dissuasif, défensif, ça s'entend, mais par exemple, qu'en est-il, c'est une réflexion un peu stupide de bon sens que je me fais, qu'en est-il de l'utilisation de l'arme nucléaire sur un champ de bataille comme le Moyen-Orient, avec l'intrication des parties. Moi, j'ai toujours pensé que l'usage contre Israël, par exemple, de l'arme nucléaire, aboutirait à une solution définitive de toute la question palestinienne, libanaise, syrienne, du même coup. Parce que les distances sont minuscules aussi. Est-ce que c'est pris en compte?
C'est parce que vous voyez ça comme une grosse bombe qui va absolument tout écraser. Or, maintenant, on est dans des générations complètement différentes d'armes et beaucoup plus ciblées et qui, évidemment, ne laisse personne à l'abri. Mais regardez ce qui s'est passé cet été au Liban était quand même très intéressant puisque, comme vous le savez, Nasrallah le disait dans le texte que je lisais tout à l'heure, la principale de la population israélienne, juif et arabe confondus, est plutôt dans le centre et dans le nord. Or, il est exact qu'il y a eu deux ou trois arabes israéliens, palestiniens israéliens, qui ont été tués sous les missiles, mais grosso modo, ça est quand même suffisamment bien affiné pour éviter les villes arabes proprement arabes israéliennes. Moi, qui est une chose qui m'a beaucoup frappé. Si vous permettez, je voudrais rebondir sur ce que disait Pascal Boniface tout à l'heure. Pourquoi exclure que certains pays musulmans sunnites ne chercheront pas après, dans le cadre de la prolifération, si l'Iran gagne, c'est-à-dire après avoir utilisé la clause du retrait du traité et s'engager dans le nucléaire, ne voudront pas à leur tour, précisément parce que l'Iran, ce sont les chiites, l'acquérir. Je pense d'abord que l'exemple de ce qui s'est passé avec Libye est extrêmement intéressant, puisque l'une des raisons pour lesquelles les Américains en particulier ont cherché à noyauter la Libye sur ce terrain, c'est précisément parce que la Libye apparaissait, selon les renseignements américains, israéliens, français, etc., comme un pays qui était potentiellement en train de vouloir acquérir le nucléaire. Et je me demande si l'Algérie elle-même, que l'on a d'ailleurs un temps soupçonné de vouloir faire du nucléaire, qu'il a, semble-t-il, abandonné, mais quelle certitude a-t-on là-dessus? Et alors même que Bouteflika est en difficulté, j'entends par là qu'il est en effet très malade et qu'il cède manifestement de plus en plus de terrain aux islamistes, si les islamistes, par la voie politique, par la voie des urnes, devaient prendre le pouvoir en Algérie, islamistes sunnites, qui nous dit que, par exemple, ce pays-ci, à nos portes, ne chercherait pas à acquérir le nucléaire?
Pour répondre, si vous permettez, à cela, si on met le panorama des pays arabes qui, par réaction à une bombe iranienne, se venant s'ajouter à une bombe israélienne, mais encore une fois avec une bombe, je dirais, qui n'est pas illégale, à défaut d'être légale, la bombe israélienne, puisque c'est un pays gris par rapport au pays, et une bombe qui, selon certaines conditions, ne serait pas illégale, mais en tout cas qui serait stratégiquement un bouleversement de la situation de la bombe iranienne, Les États du Golfe, le Qatar, Bahreïn, les Émirats arabes. Bon, d'accord. Donc, les pays du Golfe arabo-persique ne pourraient pas, n'ont pas les moyens, les micro-États, enfin Qatar, ces petites Émirats, n'ont pas les moyens scientifiques, techniques, financiers, voire même politiques, de résister à la pression américaine. L'Arabie saoudite me paraît encore loin. Elle peut bien sûr avoir les moyens financiers, quoiqu'elle a des besoins de développement relativement importants, mais je crois que l'infrastructure industrielle et scientifique fait défaut pour qu'un pays comme l'Arabie saoudite puisse, là je parle des 10 ou 15 ans qui viennent, je ne parle pas bien sûr au-delà de ce qui est prévisible humainement, même si le prévisible humainement devient de plus en plus court et parfois s'arrête à quelques semaines ou quelques mois. Mais en tous les cas, sur les 10-15 ans qui viennent, je ne vois pas l'Arabie saoudite le faire. Alors effectivement, il y a deux pays qui peuvent le faire. C'est tout d'abord l'Égypte, en fait. Je crois au premier plan, d'un point de vue industriel et scientifique, l'Égypte, avec là, le scénario que vous évoquez, je le vois plutôt pour l'Égypte, des islamistes qui prendraient le pouvoir en Égypte et qui accéléreraient ou récupéreraient un programme nucléaire et qui aurait, je dirais, un sens stratégique. En Algérie, le danger extérieur sur l'Algérie ne me paraît pas suffisant pour justifier un programme nucléaire qui, quand même, vient isoler le pays qui franchit ce tabou. Autant des pays qui sont dans des lignes de rupture de sécurité extérieure peuvent faire passer la pilule à leur population, de dire on va subir des sanctions, on va certainement avoir des points de PIB en moins, on va se serrer la ceinture, mais c'est la souveraineté, c'est l'État, c'est notre sécurité qui est en jeu. Je ne vois pas que un pouvoir islamiste algérien, par rapport à l'immensité des besoins internes de l'Algérie, pourrait justifier par une menace extérieure qui n'existe pas sur l'Algérie, qui est quand même périphérique par rapport à notre zone de conflit, justifier le prix d'un programme nucléaire militaire, même si effectivement, là, les bases industrielles et scientifiques peuvent éventuellement exister.
Je crois que nous allons rester là. Je ne terminerai pas sur une citation boutane parce que la situation est quand même suffisamment grave pour appeler d'autres réflexions. Je vous remercie.